Bonjour. Je crois qu'il est quasiment l'heure. Bonjour, merci d'être là. Oui, à 10h du matin. On va évoquer aujourd'hui un thème important de la littérature, évidemment, mais du cinéma, ce qui nous occupe ce matin, la question du premier contact avec un extraterrestre. Vaste sujet. Avant de revenir à ce sujet, donc je vais vous présenter les quatre invités et invitées, eux. Donc, je vais essayer d'aller vite parce que leur carrière à tous est extrêmement riche. Donc, j'oublierai certainement certaines choses. Voilà. Donc, je commence par ma droite, Laurence Sunaire, qui a une formation multiple qu'on retrouve dans ses œuvres hein, de littérature, en archéologie, en égyptologie, qui s'est spécialisée en infographie 3D, qui a créé et animé des avatars 3D pour un laboratoire de synthèse et préparé des projets de storyboard pour le cinéma. Elle publie sa première BD en 1984, Rasta Panique, encore adolescente donc, comme vous le voyez. Et donc, dès 2001, une série de nouvelles et deux albums, Le secret de Chimneys avec François Rivière et Éclat d'âme avec XM. Elle publie ensuite un premier volet de la trilogie Quantica, Vestige, qui évoque le rapport de l'homme face à la science et au mythe cosmogonique, mais aussi justement en relation avec l'extraterrestre ou les extraterrestres. Et le deuxième volet est paru récemment, donc aux éditions de La Talente. Vous pouvez le trouver, bien sûr, dans la librairie. Voilà, je vais vite. Donc, Sylvie Denis, je l'ai déjà présentée hier, donc je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, nouvelliste romancière, anthologiste et rédactrice en chef d'une revue Cyber Dreams de 95 et 98. Voilà. Traductrice également de romans de SF et de fantasy, Greg Egan et Stephen Baxter, entre autres. Également donc auteur de nouvelles Jardin virtuel en 2003 et plus récemment un diptyque La saison des singes et l'empire du sommeil relevant du space opéra, donc point commun avec Laurent Genefort, un des points communs, et deux romans jeunesse chez Mango. Elle s'intéresse aussi beaucoup aux nouvelles technologies, donc leurs conséquences sur l'humain, et j'imagine qu'on croise des extraterrestres parfois. Voilà. Ensuite, donc Marc Caro, c'est pareil. Donc je crois que quelqu'un a dit qu'il avait plusieurs vies. Je ne sais pas s'il en a neuf, mais en tout cas plusieurs. Peut-être immortel. Oui, j'oubliais l'illustratrice de Lovecraft pour Laurence Sunaire. Dessinateur. Donc Marc Caro est d'abord dessinateur et rédacteur pour dans les années 70 pour diverses revues très célèbres, dont Métal hurlant et Fluide glacial. Il est auteur de bandes dessinées avec Gilles Adrien, In Vitro en 87. Il rencontre Jean-Pierre Jeunet en 1974 et on connaît bien sûr sa longue collaboration avec lui, avec des courts-métrages, dont Le Bunker de la dernière rafale, film qui a été très apprécié par la critique, disons, et le public, et les deux longs-métrages, Délicatessen en 91 et La Cité des Enfants Perdus en 1995. En 2008, il réalise Dante 01 avec Lambert Wilson, l'acteur, et en 2011, un documentaire Astro Boy à Roboland. Il est également directeur artistique pour de nombreux autres films, dont Vidocq et Blueberry, scénariste et comédien dans les films qu'il a co-réalisés et dans d'autres films également. Voilà, je passe parce que là aussi, il y aurait d'autres choses à dire. Et enfin, Laurent Genefort, qui est écrivain, scénariste, directeur de collection, toujours, trésor de la SF. Il publie sa première nouvelle à 20 ans et depuis a publié une quarantaine de romans, même un peu plus, dont une vingtaine aux éditions Fleuve Noir, relevant principalement du space opéra, parmi lesquels Arago, qui a eu le Grand Prix de l'Imaginaire en 1995, et Les Chasseurs de Sèvres. Il a publié ensuite le cycle d'Omal de 4 romans, réédité depuis chez De Noël. Et son deuxième domaine, donc après le space opéra, qui a bien sûr des lettres de noblesse dans la science-fiction anglo-saxonne et française aussi. Deuxième domaine, donc la fantasy, deux séries à la hâte, un ensemble de nouvelles, de romans adultes et de romans de jeunesse. Et Horde, qui est une trilogie de dark fantasy, publiée chez Bragelonne, récemment aux éditions du Bélial un roman Point chaud, et c'est peut-être là qu'on aura un point de contact en quelque sorte entre la littérature et le cinéma, puisqu'on est, on n'est pas censé parler des œuvres des écrivains, sinon évidemment il faudrait un certain nombre de dizaines d'heures. Aux éditions du Bélial, ce roman Point chaud qui est de manière intéressante accompagné d'un guide Alien mode d'emploi, hein, comment faire quand on rencontre un alien. Et donc il relève plutôt d'un troisième domaine qui est la fiction spéculative. Là aussi, Michael Moorcock est là, un des fondateurs de la fiction spéculative. Et dans ce mode d'emploi, il y a une rubrique Premier contact. Ce roman a obtenu le prix Rodinier en 2013. Et il était à l'origine de ce roman, je voulais simplement citer cette nouvelle qui a été acclamée par la critique, Rempart, qui a obtenu le Grand Prix d'Imaginaire et le prix Bob Moran, publié dans la revue Bifrost. Voilà. Il est par ailleurs, et ce n'est pas évidemment la moindre de ses qualités, l'auteur d'une thèse sur les livres univers. Voilà, donc vous avez une petite idée maintenant de pourquoi vous devez lire tous ces ouvrages, bande dessinée, etc. Alors, on va parler de l'histoire de la science-fiction au cinéma est une longue histoire, puisqu'elle commence quasiment au début du siècle dernier, en 1903, avec Le voyage dans la Lune de Méliès. Et donc, ma première question, ça sera d'abord de... Bien sûr, vous avez tous vu Le voyage dans la Lune, donc qu'est-ce qu'il y a de particulier pour vous dans Le voyage dans la Lune? Parce qu'on retient souvent qu'une seule chose, c'est-à-dire l'obus, venu de la Terre qui percute l'œil de la Lune et lui fait mal, littéralement, donc c'est un contact violent, mais il y a autre chose dans le film. Et puis deuxième question à la suite, si vous voulez, quel est pour vous, le film le plus marquant en matière de représentation d'un premier contact avec les aliens? Voilà, donc c'est une question à double détente en quelque sorte. Donc d'abord les origines, et Méliès c'est, bon, comme vous le savez, donc l'un des courants du cinéma du côté de l'imaginaire justement. Bon, c'est un peu la réalité un peu plus complexe, hein, et les frères Lumière, vous savez, du côté plutôt du réalisme documentaire, etc. Voilà, donc qui veut commencer sur... alors d'abord peut-être Méliès, parce que c'est quand même un des grands enchanteurs, hein, pour nous, et ensuite donc le premier émoi, en quelque sorte, en manière de contact extraterrestre au cinéma. Donc, je ne sais pas,
mesdames, vous... Soyons galants.
Alors oui, c'est ce que je pensais aussi au départ. Mais on m'a incité à te proposer. Laurence?
Oui, non, vous n'allez pas être déçue. Hein.
tu veux Non, mais... Ok, super. Ça, je ne l'ai pas vu, le voyage dans la lutte. Non, sans rire, ça fait partie des lacunes de ma culture, c'est-à-dire que y a ce genre de, c'est toujours pareil, ce genre de choses qu'on dit qu'on va regarder et puis qu'on regarde jamais. J'ai pas vu Hugo Cabret non plus, donc voilà.
Le problème, c'est que moi, je l'ai vu quand j'étais toute petite. Donc je me rappelle de la scène de l'obus dans l'œil de la lune, oui, mais là, c'est vrai que le reste, ça remonte à très très loin.
Eh ben bravo.
Voilà. Donc les professionnels.
Bon, bah, on va quand même essayer de sauver un peu.
Pas du tout volontaire. Je voulais pas mettre en évidence les trous dans la culture de nos invités, mais c'est intéressant de voir qu'effectivement ce film a été partiellement oublié dans la culture, dans la mémoire collective.
Bon, relevons un peu le niveau.
Malgré les rééditions.
Relevons un peu le niveau. Donc bon, effectivement, moi j'ai vu plusieurs fois, même en boucle. Le film de Méliès, bien sûr. Ce que je voudrais dire au départ, c'est que je trouve que le cinéma a quand même carrément, s'est beaucoup inspiré de toute la littérature.
Bien sûr, oui.
C'est vraiment, on voit que toute l'évolution de la perception de l'extraterrestre dans le cinéma est à chaque fois calquée sur ce qui se fait en littérature.
Oui, oui.
Là, c'est vrai que Méliès, c'est genre un genre de mix entre ce qu'a pu faire... avec l'obus et tout ça, ce qu'a pu faire Jules Verne, hein, pour Le voyage dans la Lune. Et puis, en même temps, juste à la même époque, devait sortir le bouquin de D.J. Wells, hein, Les premiers hommes sur la Lune. Et c'est vrai que les sélénites qui sont dans le film sont quand même très, très inspirées des illustrations qu'il y avait dans la version publiée du roman en France et en Angleterre. Donc c'est vrai qu'il y a à chaque fois une genre d'adéquation, même d'une... C'est des vases communicants entre tout ce qui existe en littérature et puis ça se traduit part du visuel dans le cinéma. Alors c'est vrai que souvent c'est beaucoup plus difficile de le traduire visuellement parce que avec des mots on peut laisser à l'interprétation de chaque lecteur la faculté de visualiser comment va être cette entité extraterrestre ou comment va se passer sa rencontre. Et en cinéma ou comme en bande dessinée, tout ça, on est obligé quand même de le visualiser, le dessiner et de le coller. Et souvent, c'est forcément cette interprétation réduit souvent la faculté un petit peu subtile qu'il peut y avoir en littérature d'imaginer ces rapports. Alors, c'est vrai que aussi au niveau aussi bien en littérature qu'au cinéma, on peut penser qu'il y a une genre de des grandes catégories, une grande typologie des différentes rencontres extraterrestres. Hein. C'est vrai qu'il y a on va chez les extraterrestres, donc ça c'est tous les voyages, c'est le premier, hein, c'est comme c'est ce qui était aussi en littérature, mais c'est ce qui est aussi en cinéma. On va chez eux et on les découvre. Il y a l'autre phénomène très vite, c'est eux qui viennent et alors soit ils sont pas sympas comme dans Wells la guerre des mondes. Hein, alors ça, on a eu tout le cinéma des années 50 dans sa paranoïa anticommuniste qui a vraiment cultivé pas mal ce phénomène-là. Et puis, il y a des fois, ils sont pas si méchants que ça. Ils sont assez sympas, ils sont en panne. Par exemple, c'est comme dans comment s'appelle ce film de Jack Arnold, It Comes from Outer Space, oui. Où c'est leur vaisseau spatial qui tombe en panne. Ils sont vraiment, c'est vrai qu'ils ont une apparence assez répugnante, donc tout le monde a peur d'eux. Mais ils sont sympas, ils veulent juste qu'on les aide à réparer leur vaisseau spatial pour repartir, quoi. Et puis après, il y a ceux qui viennent chez nous pour nous dire, attendez, là, vous êtes en train de un peu... C'est pas terrible ce que vous faites avec la bombe et tout ça, style le jour où la Terre s'arrêtera.
Ouais, bien sûr.
Donc on pourrait décliner ça, les aliens, voilà, on va pouvoir...
Peut-être faire un petit peu...
Voilà, après, voilà.
Merci.
Donc, après, je vais passer...
Oui, non, juste un mot avant... J'ai occulté, entre guillemets, bien sûr, cette dimension littéraire, parce qu'il est évident qu'on doit beaucoup à tous ces auteurs que tu as cités. On pourrait en rajouter beaucoup d'autres, évidemment, alors, et par rapport aux extraterrestres, on pourrait penser...
Voilà, excusez-moi, j'en ai juste oublié une qui était assez intéressante, c'est qu'il y a eu aussi un film assez important dans ces rapports extraterrestres, c'est les communistes, c'est un film qui s'appelle Aelita, un film russe,
où
alors là, c'est les extraterrestres qui font, c'est une des premières abductions, ils prennent quelques soviétiques, ils les amènent sur leur planète, où c'est une planète plutôt totalitaire, quoi, très aristocratique. Donc, chaque fois, il y a des correspondances comme ça.
Tout à fait. Pardon. Alors, Aelita et de Rozanov donc, est un film absolument remarquable de 1924, tant que je sache. Et effectivement, on peut comparer aussi les décors, le traitement des personnages, etc., avec ce que va faire Fritz Lang dans Metropolis 2 ans plus tard. Donc, il y aurait des liens très intéressants. Voilà, c'est un film plastiquement magnifique. Laurent.
Sur Méliès, moi je me rappelle, j'avais lu un bouquin qui s'appelait La danse des étoiles, où le contact avec les extraterrestres, la première communication se passe par la danse, par une expression corporelle. Et en fait, quand j'avais lu le bouquin, ça m'avait rappelé justement le petit film de Méliès, où les Sélénides se livrent à une sorte de danse. Alors effectivement, Méliès utilisait le ballet. Dans à peu près tous ses courts-métrages, en fait. Voilà, parce qu'il venait un peu, parce que c'était un peu une esthétique du cabaret,
du théâtre.
Mais en tout cas, voilà, ça m'avait fait penser à ça au niveau des vases communicants, comme tu disais, entre littérature et cinéma. On ne peut pas s'empêcher de faire le lien parce qu'on pense en images. Mmh. Et donc, le cinéma, en tant qu'image animée, elle nous vient tout de suite. Nous auteurs à l'esprit, quoi. Donc c'est vrai que c'est indissociable et que même si on n'aime pas forcément toute la production qui se fait au cinéma dans l'imaginaire, on est quand même obligé de s'y référer parce que les images nous viennent. Mmh. Donc c'est une histoire commune, clairement.
Oui, tout à fait. Oui, alors peut-être la deuxième partie de la question, donc le moment le plus marquant pour vous dans l'histoire du cinéma ou l'un des moments.
En fait, c'est plutôt Planète Interdite pour moi que avant, parce que c'est sans doute le film auquel j'ai été exposée plus tôt, et où les gens qui sont sur cette planète sont en contact avec une entité dont on peut supposer qu'elle est extraterrestre, mais qui ne l'est pas vraiment. C'est une manifestation du ça, de l'id. Mais quelque part, elle est présentée et elle est utilisée dans l'histoire, dans le scénario, comme étant une entité étrangère, qui est terrifiante. Donc, c'est vraiment un de mes premiers souvenirs du traitement de l'étranger terrifiant et en plus invisible, ce qui est plus du tout le cas ça marche super bien quand vous avez moins de 14 ans, ce qui devient plus du tout le cas en gros après Alien, parce qu'après le deuxième grand choc esthétique et filmique, je pense que c'est Alien.
D'accord, merci.
Alors, pour en revenir à la deuxième partie de la question, parce que j'ai... voilà. Oui. Alors moi, c'est clairement les films qui mettent en scène des entités qu'on ne peut pas se représenter. Comme par exemple 2001, l'Odyssée de l'espace, qui pour moi a été le plus frappant, parce que justement, on ne comprend pas. C'est quelque chose d'étrange, c'est quelque chose d'indicible. Et c'est un peu ce que j'ai retrouvé aussi dans Solaris, où on se retrouve avec une entité qui n'est pas incarnée. Et du coup... Pour ma part, c'est ce qui m'a le plus frappé, parce que justement, l'entité n'est pas représentée et n'est pas représentable par l'humain, par le cerveau humain. Donc voilà, c'est l'aspect qui je trouve le plus fascinant. Parce qu'effectivement, en science-fiction, dans les films, etc., la représentation de l'alien m'a souvent posé des problèmes. Le film qui, pour moi, le mieux passé, c'est clairement Alien. Parce qu'on le voit à moitié, on le voit dans l'ombre, c'est quelque chose qui fait peur. Mais souvent, on tombe un petit peu dans le cliché, dans l'anecdotique... au niveau de la représentation. C'est un peu la même chose dans le dessin, où j'ai été dessinatrice longtemps et j'ai dessiné des aliens. Et puis après, j'ai dû décrire des aliens. Et là, j'ai essayé de laisser place à l'imaginaire le plus possible, parce que du coup, on n'arrive pas justement à mettre une image bien précise et trop spécifique en fait, sur cette créature qui doit rester mystérieuse. Et à mes yeux, bien sûr, c'est ma vision des choses. Mais pour en revenir au film... 2001, l'Odyssée de l'espace a été, en plus, c'est mon premier film de science-fiction. J'étais minuscule et ça a laissé une empreinte vraiment magistrale sur mon imaginaire.
Merci beaucoup. Ben, je crois effectivement que c'est un des films qui a laissé beaucoup d'empreintes sur beaucoup de gens, de beaucoup de générations. Et c'est un film absolument. Et ça pose un problème effectivement de cas limite, puisque là, le premier contact se fait non pas avec une entité représentable, etc., mais avec un objet. Donc ça pose un problème très particulier. Et peut-être que Laurent ou Marc pourraient nous en parler. Et donc, ça, c'est le type de film donc plutôt rare, en fait, hein, plutôt exceptionnel dans la représentation. Au contraire, plutôt graphique des extraterrestres et qui devient effectivement stéréotypé au fil de l'histoire du cinéma. On a ces deux cas de figure qui ont déjà été cités d'ailleurs. D'une part, 2001, l'Odyssée de l'espace, d'autre part, Solaris de Tarkovsky.
Alors, je ferai une différence entre les deux quand même. Ouais,
bien
aussi,
sûr.
Parce
bien
que
sûr.
Un est vraiment, c'est une entité quasi abstraite. Hein, c'est presque une déité quelque part, puisque c'est elle aussi qui apporte la connaissance. Aux singes, etc. Oui, c'est ça. Alors que l'autre, c'est comme un immense cerveau et c'est une communication télépathique et qui commence à c'est une communication télépathique entre les humains et une autre entité. Donc c'est vrai que la représentation de l'extraterrestre a tout le temps été très réductrice parce qu'à chaque fois, soit ça devient des poulpes, soit ça devient des scarabées, soit ça devient des mouches, soit ça devient quand même quelque chose très ancré dans une réalité de ce qui nous fait peur au niveau de l'humain. Hein. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu réducteur. Mais il y a d'autres formes moi, qui m'ont aussi intéressé. C'est quand elles sont aussi d'une manière un petit peu abstraite, comme ça, comme dans l'invasion des profanateurs de sépultures, des choses comme ça, où c'est plus du mental qui vient pénétrer, qui vient violer l'âme humaine. Quoi. Et je trouve que c'est aussi un principe qui peut être intéressant, parce que nos concitoyens peuvent devenir vecteurs de paranoïa. Donc là aussi, ça rejoint la littérature de l'époque et tout ça. Hein. C'est un peu inspiré de Heinlein, de Puppet Master, hein, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on voit souvent ce genre de bascule qui se passe entre le cinéma et la littérature. Et après, il y a tellement d'autres formes de communication, de représentation extraterrestres comme ça. Il y a aussi une autre qui est assez intéressante, c'est La Mutante, par exemple, où c'est une genre d'extraterrestre qui vient sur Terre pour se reproduire, mais en tant que prédateur.
C'est insupportable.
Je ne formule pas de jugement dessus. Je dis qu'il y a, elle représente à chaque fois des tendances qui existent dans la littérature et puis dans l'imaginaire collectif, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant.
Mais c'est marrant parce que je trouve ça La Mutante, c'est un cas intéressant comme Alien, en fait.
C'est le même créateur, c'est Giger qui est derrière.
Voilà. Et c'est l'extraterrestre du corps. Dans les deux cas, il y a l'extraterrestre de la raison. C'est celui de du jour où la Terre s'arrêta, où finalement l'alien, c'est une sorte d'épreuve morale pour l'humain, et ça va passer par la raison et par la lutte des instincts contre la raison. Et l'extraterrestre, il représente ça. Et puis, il y a le côté organique. Et dès qu'on rentre dans l'organique, dès qu'on cherche à s'incarner, dès qu'on cherche à incarner l'alien, là, il devient un peu menaçant. Parce que dès qu'il devient vraiment charnel, il peut s'infiltrer, il devient virus, il devient, comme dans The Thing, où il commence à pouvoir copier, etc. Là, on commence à rentrer dans... D'abord, on quitte un peu l'alien pour re-rentrer dans l'humain dans la chair et dans la chair humaine. La chair étrangère, elle demeure quand même, elle reste étrangère ou hostile dans le cinéma principalement. Elle est souvent quand même perçue comme une menace. C'est assez marrant, dès qu'on commence que ça commence à devenir charnel, c'est rare que l'alien soit désirable quand il est incarné. Et d'ailleurs, tout l'intérêt de La Mutante, il est là, je trouve. C'est à la fois une séduction et quelque chose de dangereux et de séducteur.
La femme comme l'alien ultime, je veux dire, c'est quand même lourd.
C'est du mimétisme, en fait. Enfin, dans le cas de La Mutante, enfin, bon, on pourra en discuter longtemps, mais je veux dire, c'est pour le coup, c'est du mimétisme, en réalité, ce qui se passe. Donc, voilà.
Il y a un autre cas de figure aussi où l'alien en fait prend corps humain, comme dans ce vieux film Starman. Je sais pas si vous. Et là, c'est.
Oui. Non, mais vas-y. Ouais.
Non, c'est bon.
Il y a aussi une autre version qui est assez intéressante. Excuse-moi, c'est celle avec où c'est David Bowie, c'est un extraterrestre qui vient.
L'homme qui vient d'ailleurs.
Voilà. Il vient, c'est un travailleur immigré un peu.
C'est adapté d'un livre de Walter Tevis, ouais. Et c'est un livre tout à fait délicat, enchanteur et vraiment.
Mais le film aussi est comme ça, je trouve.
Je suis une fan absolue de David Bowie, donc je n'ai plus de jugement.
Le réalisateur, c'est Nicolas Roeg, et c'est vrai que c'est le mec qui a fait aussi Performance avec. C'est très très fin.
Le livre était plus noir que le film, même tout d'ailleurs. Tout à fait.
Bien que le film soit quand même assez noir, assez pessimiste. Mais on trouvait ça aussi chez Jacques Sternberg, par exemple, en littérature, où il y avait des extraterrestres qui vivaient presque en banlieue, un peu discrètement et tout ça. Et je trouve ça assez intéressant comme vision. Autrement, vous avez une autre vision de l'extraterrestre aussi, par exemple, comme dans Explorer. Où c'est on attire, ça avait déjà été fait dans This Island Earth, où on attire un humain par presque un rébut, faut qu'il fabrique une machine qui lui permet d'aller dans l'espace. Et là, dans l'espace, alors soit c'est pour sauver une planète qui est en guerre perpétuelle dans This Island Earth, ou soit c'est d'amuser un enfant extraterrestre.
Ouais. Ça, c'était, enfin, j'avais trouvé Le truc intéressant, c'est que les aliens eux-mêmes, c'est ça qui m'avait frappé à l'époque, c'est que les aliens eux-mêmes ne sont pas. Et c'est là où le cinéma peut justement rattraper la littérature au niveau maturité, c'est que l'alien n'est pas représentatif de son espèce. Et là, dans ce cas-là, c'était le cas. C'est-à-dire qu'ils sont. Alors, comme c'est une espèce d'alien géante, dont la forme adulte fait quelque chose comme 4 mètres de haut. Le fait d'avoir des aliens qui ont taille humaine, qui ont des enfants qui ont la taille d'un adulte humain, ils sont d'abord pris pour des adultes. Mais en fait, non, c'est des enfants comme effectivement les gamins les héros de Explorers. Puis construire un vaisseau spatial avec un Apple IIc, il fallait le faire.
Fallait le faire.
Oui, bon, alors effectivement, là, il y a eu un échange de propos très, très divers. Moi, je voudrais revenir juste un mot par rapport au monolithe de 2001. C'est que c'est quand même un objet en plus géométrique. Enfin, il y a quelque chose de très particulier. Et il y a la musique quand même qui ajoute énormément aussi à la fascination qu'on éprouve pour cet objet. Parce que c'est la musique de Penderecki, autant que je sache, qui est donc un des grands compositeurs, qui a été utilisé aussi par Kubrick dans d'autres films, notamment The Shining. Voilà. Et pour revenir en termes de représentation, une opposition importante, effectivement, qu'on retrouve dans la littérature fantastique hein, aussi, entre justement ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit peu, ce qui reste dans les marges du cadre, ou qui est. Où la vision est problématique en raison des problèmes de perception, etc. Ou au contraire, la monstration graphique, un peu caricaturale, plus proche du film d'horreur, etc. D'où l'hybridation aussi de ces films dans les années 50 entre fantastique et film d'horreur. Et pour revenir à l'invasion des profanateurs de sépultures, et ça va m'amener à une autre question. C'est au départ la représentation, et c'est un légume en fait, hein, c'est une cosse qui s'ouvre de manière un peu bizarroïde, et on s'aperçoit qu'il y a un corps humain en transformation à côté, et donc le lien va se faire petit à petit entre les deux. Donc c'est ça le premier contact avec.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une autre typologie d'extraterrestres qui, là, on a fait souvent quelque chose qui était très du domaine de la biologie, hein, c'était avec des animaux et tout ça, et il y a aussi les plantes, hein, il y a les l'invasion plantes. Des triphides, oui. il y a beaucoup de choses où c'est des... Oui. Voilà. Et ça existait aussi déjà, c'est inspiré de romans, d'ailleurs.
Et dans le remake de Philip Kaufman, des invasions de profanateurs, justement, au début, c'est une petite plante inoffensive. Hein, c'est-à-dire, il y a des plantes comme ça sur les rebords des fenêtres, et puis après, on s'aperçoit que ce sont en fait des plantes, effectivement, qui vont générer...
Qui copies d'humains.
Qui régèrent des copies d'humains, voilà.
C'est toute l'histoire. C'est de créer quelque chose qui ressemble à un humain trait pour trait, mais qui ne l'est pas. Non, et qui, évidemment, je fiche la trouille à tout le monde.
Oui, voilà. Absolument. Et dans les années 50, il y a eu un autre film assez intéressant qui s'appelle Monolithe, il me semble, ou un titre comme ça. Ce sont des cristaux qui se reproduisent et qui sont des créatures géologiques. Quoi. Mm-hmm. C'est vrai qu'on a un peu... tous les règnes végétaux, minérales, etc. ont été explorés pour faire des extraterrestres.
Oui, voilà, donc on a multiplié les formes en quelque sorte, mais effectivement, parfois à l'excès.
Les singes velus avec un scaphandre aussi.
Oui, exact. Oui. Donc du coup, ça m'amènerait peut-être à poser la question d'une réponse partielle à la question qui était soulevée dans le petit texte de présentation. Est-ce qu'effectivement, le cinéma nous prépare à l'arrivée des extraterrestres ou pas, mais c'est vraiment une réponse partielle que je vous demande, parce qu'on va rebondir après sur autre chose, notamment sur, je l'annonce à l'avance, sur l'aspect métaphorique de tout ça, hein, c'est-à-dire finalement que nous disent ces films, non pas simplement de manière littérale dans l'intrigue, mais de manière plus métaphorique ou symbolique, comme chez Kubrick, mais aussi bien d'autres.
Voilà. Ben, donc, il y a eu un. Enfin, je te laisse la parole. Non, mais il y a eu un. Enfin, pour moi, il y a eu un basculement dans la représentation de l'alien au niveau de l'imaginaire populaire. C'est le Rencontre du troisième type, avec où c'était la première fois qu'il y avait des petits gris représentés vraiment de manière. Enfin, où on a gardé quasiment tel quel cette vision de petits hommes gris, frêles, avec un gros crâne et des gros yeux noirs, alors qu'avant c'était plutôt des petits hommes verts.
Oui.
Donc comment le cinéma aussi imprime très fort sa marque.
La bascule est surtout que là ils deviennent presque sympas.
Ah bah là ils sont carrément gentils.
Après, ouais, ils sont carrément gentils. Hein, c'est nos sauveurs, quoi.
C'est l'autre grande dualité, effectivement, les extraterrestres agressifs, monstrueux, justement, à différents niveaux.
Mais ça a été une parenthèse. Voilà. Finalement, cette période des extraterrestres gentils.
Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas une évolution, disons, dans le sens des extraterrestres mauvais, extraterrestres gentils. On a un retour après dans les années 90, etc., des extraterrestres particulièrement méchants, effectivement, épouvantables, insectoïdes, comme quand même le film de Verhoeven, Paul Verhoeven.
Il y a aussi une version où ce sont des êtres intelligents, mais ils viennent chasser. Il y a une thématique qui est développée avec Predator. Et avant, il y avait eu Without Warning et des choses comme ça, où ils viennent chasser les humains. Quoi. Ouais. C'est...
Non, ce que je voulais simplement dire au sujet des petits gris, c'est qu'en fait, c'est lié à ces apparitions de soucoupes volantes. C'est devenu dans l'imaginaire, ensuite le cinéma l'a repris, si j'ai bien compris, parce qu'en fait, il y a eu ces espèces de descriptions d'enlèvement ou de tout d'un coup d'apparition.
Techniquement, c'est apparu dans la représentation est apparue dans les pulps, dans les couvertures de pulps. Dans les années 20, en fait. Hein, vraiment, c'est très, 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 très ancien. Après, à la fin des années 40, il y a eu la vague ufologique, dont qu'on peut interpréter comme une sorte de transfusion dans l'imaginaire collectif, justement, de ces couvertures que tout Américain rentrant dans un drugstore pouvait voir, en fait, tout simplement. Et voilà, où une génération plus tard, il y a eu des visions de voilà. Et puis après, c'est arrivé dans le cinéma. Il leur a fallu encore une génération pour que ça arrive dans le cinéma.
Il faut lire les ouvrages ou les articles de Bertrand Meust sur les allers-retours entre la culture populaire et l'imaginaire collectif et la création du mythe d'une part des ovnis et des petits gris et des soucoupes volantes. C'est excessivement intéressant.
Même les soucoupes volantes dès les années 1900, en fait, on a des soucoupes volantes dans la proto-SF. On a la roue fulgurante. Ça existe déjà, en fait, avant les premières observations, entre guillemets.
Il y a un aller-retour constant entre la culture, le cinéma, l'imaginaire collectif, la société, etc.
C'est ça qui est intéressant à observer. C'est ce qui est très proche des pulps et de toute cette littérature populaire, c'est tous les sérioles qu'il y a eu entre les années 30 et les années 40. Où là, il y a déjà aussi dans Radiant Man from the Moon, etc., des visions extraterrestres qui sont assez ridicules, hein, puisque c'est juste des gens avec des cagoules. Et qui ont rien, c'est des humains, hein, donc ou dans Flash Gordon ou dans Buck Rogers et des choses comme ça, où les extraterrestres sont juste des Chinois ou des choses comme ça. Hein. Ouais. Donc y a une vraie corrélation entre les deux, entre toute l'imagerie qu'il y a dans la littérature de science-fiction, les couvertures de Amazing Stories et toutes ces choses-là, et de ce qu'on retrouve après dans le cinéma. C'est clair, ou dans la bande dessinée.
Et je pense que l'intérêt du film de Spielberg, E.T., c'est un autre cas de figure, évidemment. Il y a eu un changement là, de paradigme, quand même, un petit peu autour de ce personnage sympathique, gentil, qui ne veut que retourner chez lui, etc., et qui est quand même, à un moment donné, persécuté par la police, autant que je me souvienne, pour chasser, etc. Mais par contre, dans Rencontre du troisième type, on a quand même une véritable un lien justement avec tout ce qui s'est fait en termes de mythologie autour des extraterrestres qui enlèvent les humains, etc. Et donc Spielberg s'est quand même documenté fortement pour réaliser son film. Il y a vraiment une perception presque documentaire.
Les maquillages sont très très bien faits, parce que vous verrez, il y a un extraterrestre français dedans qui s'appelle
François Truffaut.
François Truffaut, et le maquillage est vraiment très très bien fait.
C'est celui qui interprète le rôle du spécialiste, disons. Voilà.
Un savant avec un accent.
Oui. Un accent extraterrestre, un peu, quand même.
Voilà. Et donc, je pense que c'est un film qui a marqué pour cette raison-là aussi, et qui, pour nous, est peut-être plus important que E.T. à certains égards, au niveau de la représentation, justement. Je disais que les extraterrestres donc servent de métaphore, sont pas à l'évidence, on en a déjà un peu parlé, mais on pourrait peut-être parler pour avancer vers le contemporain, enfin, si vous êtes d'accord, d'un film qui m'a profondément marqué. Parce que justement, c'est une métaphore en un genre un peu différent. Et là aussi, il y a des liens entre la littérature et le cinéma. Je pense à District 9 de Michael Blomkamp, un cinéaste sud-africain, qui traite de thématique des extraterrestres arrivés sur Terre et parqués dans des camps un peu concentrationnaires, etc. Et je trouve que c'est un film absolument remarquable, qui est un film relativement petit budget et qui a, à mon avis, révolutionné la représentation des extraterrestres.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que ce thème avait déjà été traité dans Alien Nation.
Qui était une série. Oui, qui était géniale.
Voilà, c'est vraiment des travailleurs immigrés qui viennent s'intégrer dans la communauté américaine.
Si vous n'avez jamais vu, c'est un couple de policiers, donc il y a un policier qui est un extraterrestre qui sont arrivés sur Terre, et un policier humain, et il résolvent des affaires.
Avec James Caan.
Ouais.
Alors par contre, il y a quand même une différence, oui, c'est que dans un cas, c'est de l'immigration économique, on va dire, pour Alien Nation, où ils sont dans une sorte de banlieue, alors que c'est un ghetto en fait. Ouais. C'est la formation d'un ghetto typiquement américain.
Ouais, c'est ça.
Alors que dans District 9, c'est plus le camp de réfugiés qui commence quasiment comme un camp de la Croix-Rouge.
Ouais.
Voilà, ou de l'ONU, quoi. C'est-à-dire des gens qui sont parqués en attendant que la situation s'améliore. Et puis évidemment, ça peut pas s'améliorer parce qu'on a, il y a pas les moyens que ça s'améliore.
Je crois que moi, la grande différence, en tout cas au niveau de District 9, c'est que on traite, comme lui, il vient d'Afrique du Sud, on traite vraiment de la ségrégation, de l'apartheid. Toute la promo aux États-Unis, moi j'étais aux États-Unis à ce moment-là, était formidable. C'était, il y avait des gens sur les stations de bus, dans les métros, tout ça. C'était interdit aux aliens, quoi. C'était vraiment comme ça existait. Donc ça mettait ça en jeu. Et la grande force, moi je trouve, du film, c'est là où il y a une vraie différence vis-à-vis d'Alien Nation, c'est que on arrive à rendre sympathique des extraterrestres assez répugnants. Ce qui est assez rare, parce que souvent ils sont répulsifs, et c'est les humains qui sont presque répugnants, quoi. Donc, c'est
là la. Oui. Par contre, ce qui est marrant dans la représentation, on reste quand même collé à des repères. Et même pour un film aussi adulte, dans les thématiques que District 9. Le réalisateur, pour faire quand même passer la pilule, est obligé d'avoir des repères, donc ils sont surnommés les crevettes, enfin crevettes en français, je sais pas en anglais c'est shrimp ou
shrimp
en anglais. Ouais,
shrimp en anglais.
Ce qui est que et ça m'a renvoyé un petit peu où je m'étais dit dans les années 90 avec l'arrivée des effets spéciaux pas chers et trucs, je me suis dit que ça allait libérer un peu l'imaginaire de la représentation à l'écran des aliens, et c'est pas ce qui s'est passé en fait, parce que l'altérité, il faut qu'elle soit dans la tête avant de se retrouver sur l'écran, et la représentation de l'altérité, elle pose encore problème, pas forcément dans la tête du réalisateur, mais dans la tête au moins des producteurs qui se disent oh là là, il faut que quand même que ce soit montrable, une forme de lisibilité par le spectateur.
Il faut que le spectateur puisse un peu s'identifier, parce que sinon ça fonctionne difficilement. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de Solaris, etc., parce que c'est des cas où justement il n'y a pas d'identification et que ça fonctionne. Mais autrement, c'est vrai que c'est très très difficile. Comment imaginer vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas, quoi ? C'est vraiment un problème récurrent.
Pas forcément qu'on ne connaît pas, mais troubler les repères, c'est quelque chose que le cinéma a un peu de mal à faire. Prends par exemple un alien qui serait coprophage. On ne peut pas imaginer que ce soit une espèce très évoluée, par exemple. Il y a des vrais problèmes par rapport à nos a priori tout simplement culturels, où un alien qui par exemple serait trop proche, par exemple violerait la sphère d'intimité d'une personne, se mettrait à parler à 5 cm du visage et on peut imaginer que ce soit pourquoi un alien aurait cette notion, la même notion que la nôtre, de se tenir à un mètre de la personne, tout simplement pour respecter sa sphère d'intimité, ce serait perçu comme une menace, en fait. Donc on peut pas, il y a des choses qu'on peut pas faire et qui seraient pourtant logiques.
Moi, ça me rappelle quelque chose juste pour la représentation de l'alien, c'est que j'ai fait une école de design industriel et on nous avait demandé de dessiner des aliens. Et pour se dessiner ces aliens, on nous avait dit « Inspirez-vous de n'importe quoi, sauf de créatures qui existent déjà. » Donc on devait prendre des éléments naturels, des éléments artificiels, etc., et combiner et créer quelque chose. Et en fait, ce qui était hallucinant, c'est que le résultat final de la plupart des auteurs était effrayant. Parce que ça correspondait à rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette substance, il n'y avait pas le côté humanoïde, il n'y avait pas le côté insecte. Il y avait des éléments d'insectes, des éléments d'objets artificiels. Et le truc avait fonctionné d'une façon, c'était complètement stupéfiant, parce que justement, mais c'était pas reconnaissable. C'est-à-dire que ça faisait peur, parce que justement, ça échappait à ce que normalement la représentation on a de la tête d'une créature. Et là, franchement, ça avait fonctionné, quoi. Mais on trouve peu ça dans les films, je trouve, dans la création des créatures. Parce que ça devient trop étrange, presque. C'est dérangeant, en fait.
Au niveau visuel dans le cinéma, c'est vrai qu'il y a une grande notion d'anthropocentrisme. Hein. C'est vrai qu'on voit toujours des aliens avec des bras, des jambes, où on peut changer. Alors là, on bascule dans le domaine animal, mais c'est souvent quand même très, très... Ça ressemble aux humains, quand même, avec des têtes, avec des peaux d'autres bestioles.
Il y a à la fois l'anthropomorphe et l'insectoïde.
Voilà. Il y a des contraintes biologiques,
ou mollusques.
Quand même.
Aussi.
Oui, ce qui s'est passé dans la littérature, c'est que au lieu de créer des extraterrestres uniquement pour produire des effets, c'est-à-dire de l'étrangeté, de la terreur ou de la terreur, on a créé des extraterrestres en créant leur biologie, leur structure et en leur culture, en leur langage, etc. En s'inspirant donc en s'inspirant des sciences qui étudient tous ces aspects-là.
Oui, mais vous n'avez pas à les visualiser vraiment. C'est ça le problème. Le problème, c'est que un cinéaste ou un dessinateur, un illustrateur, a à les visualiser. Et ce qu'on peut, et il est là, un extraterrestre, c'est soit quelque chose d'angélique comme E.T., des choses comme ça, hein, qui sont sympas, soit une créature qui fait peur. Donc, qu'est-ce qui fait peur? C'est quand même les insectes, les serpents, les choses comme ça. Il y a quand même une genre de au niveau
oui,
symbolique.
Donc, il est là uniquement pour produire un effet.
Bien sûr.
Effectivement. Mais on peut produire d'autres effets que la terreur.
C'est souvent ce qui se fait à travers certains films qui sont plus particuliers, qui tendent plus vers l'abstraction, qui sont 2001, des choses comme ça, où il y a des visions d'extraterrestres un petit peu abstraites, comme ça. C'est dans certains mangas. Où il y a des formes qui commencent à devenir dans Ragzéphone ou des choses comme ça, les extraterrestres commencent à devenir presque des entités complètement abstraites, un peu encore humanoïdes forcément, un peu roboïdes, mais il y a quand même de nouvelles visualisations. Mais c'est quand même rare. On a des grosses typologies, et depuis Alien, la typologie de l'extraterrestre, elle est quand même super limitée maintenant. Hein. C'est quand même. Voilà. Autrement, on va faire un clin d'œil aux années 50 avec Mars Attack et des choses comme ça. Mais autrement, c'est quand même. Du sous-alien, souvent. Hein.
On n'a pas parlé des parodies, effectivement. Ça entraîne forcément. Le stéréotype entraîne la parodie, le pastiche. Et donc, l'un des bons exemples, c'est Mars Attack. Alors, je ne sais pas si vous avez.
Ou Men in Black aussi.
Ou Men in Black, bien sûr, oui, voilà.
C'est la même esthétique.
Ouais. L'un étant inspiré par un jeu de cartes, hein, celui de Tim Burton, qui représentait justement des aliens, mais qui lui pousse très très loin la caricature, effectivement.
Et puis voilà. Men in Black, c'est du Frederick Braun au cinéma, quoi. Mm. C'est
vraiment Oui. Et il y a le motif de l'extraterrestre immigrant au tout début.
Oui. Oui.
Quand ils arrivent et qui.
Puis il y a deux façons. Il y a aussi comme typologie, il y a l'extraterrestre seul. Et puis il y a l'extraterrestre en tant qu'espèce, en tant que peuple. Et c'est deux catégories de films différents aussi.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et dès qu'on les traite de façon. Mais je trouve que par exemple que Star Wars, a, même si ça véhicule certaines idées, le côté. La banalisation de l'extraterrestre. Enfin, c'était quelque chose d'assez nouveau. Moi, j'avais trouvé au cinéma quand j'étais gamin la scène du bar. Je parle de la première avec plein d'extraterresses qui cohabitent. Non, mais rien que ça. C'était une époque aussi.
Mais là, c'est plus une rencontre.
Mais ce côté banal, ce côté banalisation était intéressant. Enfin, qu'on a dans District 9 aussi, c'est qu'il n'y a plus le choc de la nouveauté. On voit aussi dans la durée et ça change tout en fait.
Oui, parce que pour moi, à 14 ans, Star Wars, c'était enfin sur un écran, je vois ce que j'ai lu. J'avais déjà lu Hamilton, j'avais déjà lu pas mal de Fleuve Noir, j'avais déjà lu Silverberg, enfin bon, une certaine quantité du Leibrack, Brackett, et vraiment, c'était l'apparition de ce que j'avais lu, quoi. Mais effectivement, le contact est déjà fait.
Oui, je pense qu'il y a une question qui est assez fondamentale, mais qui est traitée évidemment dans ces films, mais peut-être moins que d'autres, c'est la question de la réversibilité du point de vue. Alors dans Darkman, par exemple, on a effectivement un plan subjectif de l'alien qui découvre la photographie, mais c'est un très mauvais film, enfin plutôt un mauvais film, je dirais. Mais il y a quand même cette tentative de donner le point de vue de l'autre sur l'humain. Bon, quelque chose que fait Laurent Genefort dans son roman, mais on ne va pas parler de ça, mais disons qu'il y a un lien avec le cinéma, puisqu'il a été en partie inspiré de justement de District 9 dont on vient de parler, donc influence revendiquée et hommage. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, quelque chose que fait mieux peut-être la littérature. Comment transmettre un point de vue qui est celui de l'alien, voire un, pourquoi pas une conscience ou un discours de, qui est celui de l'alien. Enfin, je pose la question là, de manière.
C'est souvent anecdotique au niveau cinématographique. Hein. C'est souvent, oui, c'est, on a des fois le point de vue comme dans It Comes from Outer Space, on voit le regard, voilà, c'est un film en 3D, on voit le regard des aliens et tout ça. Bon, et puis ou alors Predator qui les voit mais comme comme des cibles sur son appareillage. Quoi.
Mais il y a un film en fait dont on n'a pas parlé où il y a un moment donné justement le point de vue de l'entité, c'est dans le premier Star Trek film où c'est l'entité Voyager, voilà exactement. Et là, j'ai trouvé très intéressant parce que justement c'est une petite sonde spatiale qui part à la fin du XXe siècle expédiée vers les étoiles. Et en fait, elle est reprise par une civilisation de machines qui retourne la petite sonde qui doit retrouver son créateur. Et cette petite sonde s'appelle Voyager, pour Voyager. Et on a, à un moment donné, si je me rappelle bien, le point de vue de cette entité. Et j'avais trouvé ça absolument hyper intéressant. Quoi.
Mais pour se faire comprendre par les gens de Star Trek, il envoie quelqu'un du
manoïde. Il envoie une femme. Mais à un moment donné, il me semble qu'on est un petit peu dans son point de vue.
Une androïde.
Je trouvais que c'est intéressant, en fait.
Oui, moi aussi. Alors moi, ça m'avait...
Génial.
Moi, c'est un film qui a changé
ma vision. C'est Robert Wise qui a fait ce film-là. Et il avait déjà fait Le jour où la Terre s'arrêtera. Donc, il est très fort.
Et moi, ça... Moi, ça avait été pour moi la première vision d'une altérité radicale montrée. Alors, l'altérité, c'est une sorte de nuée et on rentre dans une sorte d'ordinateur vivant aux dimensions quasiment d'un système solaire. On était vraiment dans un...
Nuage noir de Fred Hoyt, en fait. Ça
ressemble ça évoque ça. C'était, moi, alors, avec des effets spéciaux incroyables pour l'époque aussi, au service d'une vision vraiment cosmique. Quoi. Moi, c'est un film qui m'avait... profondément marqué. Comme
c'est
toi,
un film que j'avais mis au niveau, enfin pas vraiment au niveau, mais dans l'idée de 2001 l'Odyssée de l'espace, c'était le même genre d'approche en fait. Beaucoup plus fascinant.
Mais alors là, il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été suffisamment exploré, en tout cas au cinéma, c'est justement cette idée de relativisme, c'est-à-dire où l'humain serait vu comme une espèce parmi d'autres et ne serait pas au centre du monde en quelque sorte. Bon, comme on trouve souvent, et je crois que c'est Laurent Genefort dans un entretien qui dit qu'il est déçu par la plupart des films récents sur la représentation des aliens, justement parce que ça manque d'imagination.
Oui, alors, c'est sûr que bon, si on prend Avatar, c'est clair que des panthères bleus humanoïdes renvoient à une SF très enfantine, quoi. Sur lequel on a où c'était celle d'un Larry Niven pour l'anneau monde avec des extraterrestres qui sont des gros chats orange. Voilà, donc c'est clair qu'on essaie de faire une SF plus mature à ce niveau-là. Mais ce qu'il y a, l'intérêt quand même du space opéra le cas d'Avatar, c'est que on est mis là l'être humain c'est lui-même un extraterrestre à partir du moment où il arrive sur une planète qui est pas la sienne. Le relativisme, il est naturel. C'est-à-dire qu'on est au même titre que les... Alors, des fois, il y a un renversement, comme dans Avatar, où là, pour le coup, c'est nous, les extraterrestres. Hein, on arrive et on envahit. Donc, c'est un motif d'inversion très, très classique. Mais ça, c'est efficace dans le genre. Ou alors, moi, c'est ce que j'avais essayé de faire dans Omal. C'est que tout le monde est extraterrestre dans Omal. C'est-à-dire que tout le monde est arrivé en même temps, grosso modo, est arrivé sur un territoire vierge. Et donc, on est tous logés à la même enseigne. Humain comme extraterrestre. Donc ça remet un peu les choses à plat. Tout le monde est l'extraterrestre de l'autre. Ça ne fait pas de doute quand on arrive dans un environnement qui est étranger à tous, en fait.
Merci.
Mais je pense que c'est vrai qu'il y a certaines pistes qui existent dans la littérature. Je pense à La Voix du Maître, par exemple, de Stanislas Lem, où il n'y a presque pas de possibilité de communication avec une autre forme d'altérité. Et c'est vrai que ce genre de sujet-là n'a pas tellement été traité au cinéma, qui a besoin un peu de spectaculaire, vu que maintenant on a besoin que ça bouge et que ça fasse badaboum, donc on a besoin de beaucoup d'argent, et on fait les films de science-fiction sont plus des westerns ou des films de cap et d'épée dans l'espace que des vrais sujets comme 2001 ou des choses comme ça. Quoi.
Avec quelques exceptions comme Monster d'il y a quelques années,
où
ça commence, on a l'impression que c'est une invasion et en fait c'est pas une invasion, c'est quelque chose d'assez indifférent à l'humanité.
Tout à fait. Oui, il y a des films.
Il y a quelques films quand même, et c'est ceux qui restent hein, en général d'ailleurs.
Oui, c'est exactement. Oui. Dernière remarque avant de passer la parole au public, parce qu'il est à peu près moins le quart, je crois. S'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été évoqué, avec ça a fusé de tous les côtés, hein, c'est une chose facile. Donc, est-ce que vous avez des remarques, des questions par rapport à des films qui auraient été oubliés, par exemple, selon vous, qui ont, sont voilà, mais inévitablement. Alors, il y a deux mains qui se lèvent, donc. Le micro circule.
Alors au cinéma, j'ai pensé à un alien qui arrive, comme vous l'avez évoqué, en tant que réfugié, non pas représentant de la civilisation, mais pour sauver sa propre vie. C'est Kal-El de Krypton, Monsieur Superman.
Oui, on n'a pas parlé de ça.
Et qui justement a ce retour par rapport à la vie humaine, c'est qu'il a sa culture kryptonienne qu'il découvre au fur et à mesure. Et son instruction du Kansas. Il est devenu un Américain du Kansas. En étant alien à la base, mais ils en ont fait un Américain qui découvre qu'il est un peu plus loin que Smallville.
Ça l'a énormément marqué. Regardez le pauvre slip rouge qu'il est obligé de porter. C'est vraiment horrible.
Ça l'a traumatisé. Ça l'a
traumatisé.
J'ai une deuxième remarque. Ce n'est plus du cinéma, c'est de la série télévisée. Où là, justement, les êtres humains sont finalement des aliens comme d'autres. Pour le docteur Wu. Qui considère même qu'un arbre est une forme de vie aussi valable qu'un être humain.
D'accord. Donc
mais ce n'est pas du cinéma, donc je suis d'accord que ce n'est pas forcément dans le thème d'aujourd'hui.
Non, mais ce n'est pas la question. Mais vous n'aviez pas de question, c'est plutôt des remarques.
Si oui, c'est des remarques.
Voilà, merci. Oui, pardon.
Est-ce que je n'ai pas... Je ne suis pas du tout lectrice de comics, donc... est-ce que la culture kryptonienne est vraiment développée dans les comics ? Qu'est-ce qu'on en sait de Krypton, en fait ? À part qu'ils ont des trucs verts et des trucs rouges. Non, je demande, je pose la question. Il n'y a pas de lecteur de Superman Comics.
Ça. J'ai lu ça, mais je ne sais plus si c'est vraiment développé ou pas. Il y avait une deuxième question ?
Voilà, bonjour. Avant de poser ma question, je vais rassurer les gens. Le slip de Superman dans la dernière version, c'est bien gardé, on lui a enlevé. Je pense que ça a traumatisé trop de gens. Donc...
On voit ses parties, tu veux dire ?
Voilà. Non, parce qu'il y a du bleu, il y a du bleu en dessous, mais on est peut-être un peu dans cette idée-là, je sais pas. Enfin, la question n'étant pas Superman, non, moi j'ai pensé à un autre film qui n'a pas été abordé et qui pour moi amène une autre perception de l'alien qui n'est pas extraterrestre. C'est un James Cameron, c'est Abyss.
Oui, j'avais prévu d'en parler. Merci
voilà,
de
un
rappeler.
Petit peu de votre avis sur Abyss, sur comment vous percevez. Est-ce que ça va plus loin ? Est-ce que c'est pas de l'alien ? Moi, je pose ces questions-là.
Moi, je pense que c'est les aliens les plus proches sont sous la flotte. Hein. Ça, c'est clair. Quand on voit ce qui se passe près des failles volcaniques, là, il y a des formes de créatures qui sont complètement avec d'autres constitutions, même au niveau moléculaire, chimique et tout ça. C'est dingue, quoi. Ouais.
C'est quelque chose qui me passionne depuis très longtemps.
Oui, ou si on remonte aux formes de vie du précambrien avec des bestioles avec cinq yeux qui ne sont pas du tout avec des.
La fameuse couche de je ne sais plus quoi.
Où il n'y a pas la symétrie bilatérale. Ouais. Voilà, on explore aussi des pistes avec des
trilobites et tout ça.
Des formes de vie non. Qui seraient peut-être basées avec. Enfin, où il y aurait peut-être d'autres acides aminés. De l'ADN mais avec des acides aminés qui seraient pas le ACTG voilà.
Ouais, je crois que j'avais lu un truc pour écrire mon bouquin justement sur les extrémophiles etc. Je crois que justement il y a des variantes qui sont assez comme s'il y avait eu deux embranchements en fait, un avait donné ACGT puis l'autre il y avait, c'était assez fascinant en fait. Donc, on a les aliens sur cette terre en fait, hein.
Ouais, tout à fait.
Il y a aussi la grotte en Roumanie, les grottes qui sont restées isolées pendant très longtemps, et où des populations, enfin essentiellement des bactéries et des petites bestioles, se sont développées, mais de manière totalement isolée et parallèle à ce qu'on peut avoir chez nous.
Les extraterrestres en littérature, ça a été fait aussi dans certains films, c'est quand même tous les phénomènes de terre creuse, hein, où à l'intérieur de même notre planète, on creuse et puis il y a des extraterrestres, il y a encore des créatures, des dinosaures, etc. Et puis d'autres espèces, quoi. Donc à travers Edgar Rice Burroughs et compagnie. Hein.
Oui, tout à fait. Ou le monde perdu.
Voilà le monde perdu.
Le monde perdu de Conan Doyle, bien sûr. Oui, alors.
Dès qu'on regarde dans un microscope électronique et tout ça, quand on voit les créatures.
Les acariens.
Ouais. Les acariens et des choses comme ça, c'est des extraterrestres absolument extraordinaires.
Ça a inspiré ceux du film de synthèse Final Fantasy, le premier Final Fantasy. Ouais. Les formes de vie alien, c'est des acariens, hein, clairement. Ouais,
les acariens sont terriblement monstrueux hein, quand on les voit. Mais bon, je crois qu'Abyss effectivement a marqué d'une manière, d'une autre manière aussi par la technologie relativement nouvelle. Enfin, après Terminator, en image numérique, en image de synthèse, morphing, etc. Mais ce qui est frappant, moi, ce qui m'a frappé quand même pour faire un tout petit commentaire. Bon, d'une part, ça se passe sous l'eau, effectivement, c'est assez rare. Et d'autre part, malgré tout, malgré cette forme donc transparente, amorphique entre guillemets, sans forme. Malgré tout, il y a un moment donné la matérialisation du visage humain. Donc, il faut qu'il y ait un rapport encore avec l'anthropomorphe pour que ça passe, quoi. Ouais, le pod. Ouais. Voilà.
Mais c'est vrai que c'était une nouvelle forme. On l'avait pas vu avant Abyss. Voilà. Les formes très inspirées des créatures du fond sous-marin, ouais. Hein, des méduses et toutes ces choses-là. On l'avait pas vu. C'est vrai que il a apporté ça au niveau du visuel et de l'imaginaire. Des extraterrestres.
Oui, un message politique aussi, ce film. Oui. Hein. C'est en pleine guerre. Enfin, il y a une guerre qui est sur le point d'arriver. Et tout d'un coup, il y a cette forme de vie qui rabaisse en fait, le niveau. Donc, il y a aussi.
Oui, tout à fait. Et on évite le cataclysme final, hein, puisque le raz-de-marée s'arrête en plein milieu.
Pas dans toutes les versions. Hein,
dans une des versions. Ouais. Parce qu'il y a deux versions, évidemment. Hein. D'autres questions ou d'autres remarques
Bonjour, déjà. Alors, c'est pas une découverte, hein, ce que je vais dire, mais je remarque en fait que les premiers contacts que l'on observe au cinéma sont souvent basés sur nos émotions. Donc, on a vu la peur avec Alien, on a vu la haine avec, je sais pas, on a parlé de Starship Troopers, non, enfin District 9, l'amitié E.T., etc. Je voulais savoir s'il y avait des films qui étaient plutôt basés sur l'amour, en fait, par exemple, qu'il y aurait entre humains, extraterrestres, ou des choses comme ça.
Starman de Carpenter.
Le jour où la Terre s'arrêta, c'est quand même...
Le jour où la Terre s'arrêta.
Oui, c'est vrai.
Il y avait un film...
Il y en a
un certain nombre.
Il y avait un film intéressant aussi qui traite un peu de ce que vous dites là, de l'amour. C'était un film qui s'appelait Abattoir 5, où c'est deux humains, un homme et une femme, qui sont abductés par des extraterrestres, qui les mettent dans un genre d'environnement très sympathique, avec des lits, tout ça, et qui les regardent parce qu'ils savent pas du tout... c'est presque un zoo, quoi. Ils les regardent faire l'amour, etc. Et, parce qu'ils sont très curieux de connaître les sentiments que peuvent avoir des humains, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tellement évoqué cet aspect-là où quelle est la mentalité des extraterrestres qui sont évoqués dans chacun des films, quoi. Souvent on rentre pas tellement, à part peut-être dans un film comme L'homme qui tomba qui venait d'ailleurs là, ou des choses comme ça, on rentre pas beaucoup dans l'intimité des extraterrestres, dans leurs sentiments,
etc. Ils courent partout et ils sautent et on leur tire dessus, on n'a pas le temps.
Voilà, c'est ça, on n'a pas le temps.
Oui, mais donc ça c'est un aspect.
Soit c'est des messies, soit c'est des
des êtres extrêmes intelligents.
Il n'y a pas beaucoup de communication, à vrai dire.
Il y a une scène intéressante. Je crois que c'est à la fin de la stratégie Ender où le jeune homme se rapproche et a une sorte de pensée émue, je sais pas si envers cette créature en fait, comme un espèce de regret. Ou je me rappelle, c'est assez flou dans ma tête, mais ça m'avait frappé en fait. Je sais pas si les gens s'en rappellent.
J'ai pas vu.
C'est la fin de la stratégie
Dans
Ender.
L'épilogue.
Dans l'épilogue, exactement. Et ça m'avait frappé parce que je me suis dit, tiens, on met peu ça en scène. On met plus ça en scène dans les livres, c'est-à-dire l'aspect justement relationnel humain extraterrestre. Et là, ça m'avait frappé. Je me suis dit, tiens, ça rajoute quelque chose.
Oui, une question là-bas. Et une ici.
Merci. C'est une remarque au sujet de la stratégie Ender. Il faut lire le livre et les trois suites, parce que ce ne sont que des interrogations, justement, entre l'humain, les aliens, l'altérité, l'intelligence. C'est que ça, tout le long des quatre volumes. Voilà.
Merci. Il y avait une...
Oui, au sujet...
C'était un mot de l'éditeur.
Au sujet de l'intimité de l'extraterrestre, il y a un film tout à fait récent et intéressant à ce point de vue, c'est Under the Skin.
Oui,
c'est vrai. Là, la part métaphorique, elle est très importante, pour le coup.
Oui, oui, absolument. C'est un des films tout à fait remarquables de cette année, Under the Skin, donc film britannique, hein, donc qui ose des sujets qui ne sont pas toujours traités dans le cinéma hollywoodien pour des raisons de production bien connues. Donc on ne va pas parler trop de ce film parce que peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ne l'ont pas vu. Donc,
voilà, c'est une expérience cinématographique, clairement.
Ouais,
hein. Alors, on peut détester. Moi, ça avait toutes les qualités et les défauts pour que je déteste. Et j'ai été scotché par ce film qui aurait dû m'ennuyer intensément. Et ça n'a pas du tout été le cas. Même si c'est très maniéré à certains endroits du film. Mais en fait, c'est très, très étonnant. Mais on est vraiment à la frontière du fantastique. Avec c'est une vision très fantastique et fantasmée de l'extraterrestre. Le thème de l'extraterrestre, il est quasiment absent en réalité d'ailleurs.
Oui, c'est un peu un prétexte en fait pour évoquer d'autres aspects. Mais donc
tout cas super intéressant.
Ouais. Avec Scarlett Johansson pour ceux qui sont fans. Oui, encore une question.
Oui, bonjour. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'au final, les films de science-fiction qui parlent de premier contact, au final, ça nous ramène à notre rapport à l'autre, à notre rapport à l'étranger. Mais je voulais savoir s'il y a des tendances qui se dégagent dans les films plus récents et comment ça pourrait évoluer.
Après 2001, à moins que quelqu'un veuille. Après, vraiment, il y a eu une période. Après 2001, il y a eu un basculement quand même. Enfin, même d'ailleurs, je dis un basculement, non, parce que finalement, on était déjà dans une logique d'invasion. Il y a eu quand même. On est toujours pas sorti d'invasion extraterrestre.
Je pense que là, il y a quand même un syndrome 11 septembre. Hein, dans tous les films d'extraterrestres qu'on voit, ils viennent ici pour nous bombarder, nous faire tomber les immeubles. Hein. Ils sont là avec leurs vaisseaux spatiaux et boum, invasion. Il y en a tous les films et il y a par contre les soldats américains qui vont les foutre dehors et tout ça. Hein, c'est quand même. On est dans des purs films propagandistes. C'est comme dans les années 50. Hein, les extraterrestres étaient l'émanescence de l'état d'esprit paranoïaque de la guerre froide. Là, on est dans un contexte un petit peu identique, sauf que on peut pas dire que ce sont des extraterrestres barbus parce que ça la foutrait mal, mais c'est quand même un peu ça qui se passe, quoi.
Mais alors, c'est marrant parce que je trouve que avant 2001, pas le film, avant le 11 septembre. Les extraterrestres étaient clairement des envahisseurs désignés comme tels dans Independence Day, etc. Après 2001, ça devient bizarrement l'extraterrestre est moins nommé, enfin est moins comme si justement on avait peur. Les réalisateurs voulaient pas être assimilés à ça. Et où finalement, dans la version de la Guerre des Mondes de Spielberg, par exemple, les extraterrestres, il n'y a pas de jugement en fait. C'est quasiment des forces naturelles qui viennent anéantir. L'humanité ça s'axe moins sur la cause que sur l'effet en fait.
Et c'est vrai qu'elle envoie souvent des machines. Hein. Elle envoie des machines à sa place. Hein.
Oui.
On voit très peu.
C'est la scène spectaculaire où les machines surgissent de terre au début. Là, ça c'est quand même une scène très très réussie. Mais voilà. Non, je suis d'accord avec ça. Il y a eu quand même une conséquence majeure sur le. D'ailleurs, c'est un certain nombre de projets de films qui ont été annulés ou modifiés après 2001, justement, autour de ces questions-là. Bon, je crois qu'on aura. On va être. Oui. Pardon. Oui, d'accord. Je voulais donc rajouter que vous pourrez rencontrer tous les auteurs, juste après cette rencontre, donc à la librairie pour des dédicaces et pour discuter avec eux. Voilà. Peut-être un dernier mot avant qu'on se sépare. Je ne sais pas.
Non, c'est bon.
C'est bon. Bien, merci beaucoup.